Bonsoir à toutes et à tous. On est ravis de vous retrouver pour Par les temps qui courent, tous les soirs, une heure de conversation. Et ce soir, avec Lucie Taïeb.
Un tango, une danse, un baiser.
Et tu peux taper, péter, péter.
Ça y est, puis 21h.
Ah ben, à vous voir arriver, on n'aurait pas cru que c'était si bien. ça résume, quoi.
C'est vrai que le printemps, l'été, c'est formidable. On avait les mêmes tomates et les petits pois.
Par les temps, qui courent.
Marie Richeux avec Lucie Taïeb.
Nous nous sommes échappés, et comme nous avons été effacés de tous les registres, comme nos noms ne peuvent même plus être prononcés, nous avons constaté que nous n'existions pas. Nous sommes une poignée, nous ne sommes pas dangereux, nous ne disons ce que nous savons qu'à ceux qui viennent à nous. Les autorités savent que nous existons, elles nous tolèrent, car nous gardons le secret. De temps à autre, l'un d'entre nous disparaît de nouveau. On retrouve parfois un vêtement qu'il a porté, une mèche de cheveux, un signe qui nous dit que nous ne sommes pas en sécurité. Quelque chose se prépare, qu'on voudra nous mettre sur le dos. Ainsi, si vous voulez nous rejoindre, vous savez ce qu'il en est. C'est un extrait de votre dernier roman, Lucie Taïeb, Comme un appel, Les Échappés, qui est paru aux éditions de l'Ogre. Bonsoir et bienvenue.
Bonsoir.
Je glisse au passage et au début que vous êtes sur la liste du prix Vepler, aux côtés de plein d'autres textes chouettes, qui sera remis le 11 novembre prochain. Et comme souvent, ici, on commence par le début.
On porte en soi la mort comme un fruit qui mûrit, paraît-il. Mais on ne veut pas pour autant qu'elle parvienne à maturité. On préfère qu'elle ne grandisse pas, alors on ne bouge pas, de peur d'accélérer le processus. Mais il y a, dans cette immobilité, quelque chose qui ronge véritablement. Un épuisement prématuré des forces. Un déclin impassible. Une image qui vous fascine et vous empêche de fuir. Comme la bête piégée par l'éclat des phares, stoppée net au milieu de la voie, et que le véhicule n'évitera pas. Ainsi, une menace rôde. On se terre. Et avec la croyance folle de devenir invisible, on ferme les yeux. Dans des haut-parleurs, par tous les organes possibles de communication, l'annonce quotidienne se répète. Nous ne sommes pas à l'abri. La frappe est imminente. Seuls les insensés ou les subversifs en doutent. Cela va venir. Cela se prépare. Cela est déjà là. Mais nous ne le voyons pas encore. Souvenez-vous des fois anciennes, des attaques imparables qui ont fauché des innocents, lorsqu'encore un sourire de joie éclairait leur visage. Cela va revenir, inédit et terrible.
Lucie Taïeb, Jeanne Aléosli, le début de votre roman Les Échappés. Le début est une sorte de double mouvement. Un qui ne serait pas mouvement, immobilité, mort. L'autre qui serait tous les mouvements, la fuite, l'échappée, le mouvement, la disparition. Oui. Dans quel mouvement, vous, avez-vous commencé ce texte? De quel côté de la balance?
Du côté de la peur, en fait. Aussi de la sidération, parce que j'ai commencé à l'écrire en 2015. Et peut-être, enfin là, je pense que dans le début, on l'entend résonner. Les attentats sont arrivés et ont changé une perception qu'on pouvait avoir au monde, à ce qui était faisable, même si les choses se sont peut-être un peu rétablies ou un peu cicatrisées dans notre rapport à, juste au fait de sortir. À l'époque, c'était vraiment très, très vif. Et donc, il y avait à la fois donc ce réel sidérant, effrayant, et l'envie d'écrire un livre où on peut échapper et s'échapper justement en se déplaçant. Parce qu'en tout cas, il n'y a pas vraiment d'issue si on reste sur place. Ça veut dire ça aussi.
C'est pour ça que le roman porte ce nom-là, Les Échappées, et qu'à plein de moments, il est aussi question d'échapper comme de disparition de fichiers de surveillance, de disparition de certaines choses quadrillées, de certaines visions. Il est apparu directement face à ce réel qui vous immobilisait un temps, Lucie Taïeb, qu'il allait falloir être comme ça, furtif, débrouillard, et échapper à ce qui pouvait vous tenir en place.
En tout cas, dans l'univers fictif du roman, c'est la solution prônée. Et c'est aussi l'idée qu'en se déplaçant, on devient autre, ou qu'on peut devenir autre, en tout cas. Et que ça peut être aussi une issue dans un monde, alors là, sans maintenant référence précise aux attentats, mais dans un monde où on peut avoir l'impression d'étouffer, où des normes, des règles, ou une manière de gouverner peuvent être ressenties comme oppressantes. C'est l'idée que ça peut être une stratégie. Pas l'opposition frontale, où on est perdant, mais voilà, effectivement, la débrouillardise, le pas de côté, aller trouver un endroit où autre chose serait possible.
Pour vous, cette autre chose, avant qu'on rentre un peu plus précisément dans le texte, il s'est toujours situé dans la littérature ou dans l'art de manière générale?
C'est une question très compliquée. c'est une question compliquée parce que j'aurais l'impression, en répondant oui, que j'ai trouvé ma niche, ou que j'ai trouvé le refuge dans l'art et dans la littérature, et que ça permettrait justement d'échapper à un réel ou à une réalité économique, sociale, politique.
Si on considère que l'art est en dehors de la réalité économique, sociale et politique.
Exactement. Mais en tout cas pour moi, dans un parcours personnel, et aussi qui est surtout un parcours de lecture, il a toujours été assez net que la littérature permettait d'ouvrir des choses. Et aussi dans le rapport à soi-même, donc de s'échapper à soi-même et de ne pas être là pour l'écriture, mais aussi dans la lecture, de ne pas être coincé dans l'ici et le maintenant d'une identité figée.
Dès le départ du roman, il y a une menace qui plane, oui, qui sourde, on l'a entendu dans la voix de Jeanne Aléos à l'instant, mais elle n'est pas nommée. C'est une sorte de menace très théorique au départ, mm-hmm, qui reste comme ça, assez en l'air, oui, assez volontairement. Vous diriez quoi d'elle, une fois le livre refermé, de cette menace-là?
Cette menace est un moyen, est clairement un moyen dans le livre, de coercition des corps et des esprits. On vous tient parce qu'on vous fait peur et qu'on vous promet une menace. Et donc, faites-nous confiance, on vous protégera. La tentation face à un tel discours, ce serait de penser que c'est seulement un discours. Et ce qui me plaisait, c'est peut-être alors je ne sais pas quel type de plaisir c'est, mais ce qui me plaisait, c'était que la menace puisse se réaliser dans le livre. Ce qui amène aussi à une incursion dans le fantastique. Pour aussi peut-être explorer une zone de complexité par rapport à un discours sécuritaire dont on a toujours envie de se dire qu'il est seulement un discours, mais dont on sait que parfois la réalité aussi
l'applique.
Déjà l'applique. C'est vrai. Déjà l'applique, et aussi que parfois le réel se révèle effrayant ou terrorisant.
Vous parliez d'un univers fictif, est-ce que vous voulez bien planter le décor pour nous, des échappées, Lucie Taïeb?
Oui, donc de raconter les deux trames.
Ouais, je sais pas, ouais. De dire où est-ce qu'on est, puisque vous parlez d'un univers fictif, est-ce qu'il il a des contours pour vous dans votre tête au moment où vous commencez à l'écrire? Est-ce qu'il se bâtit au fur et à mesure?
En fait, il n'y a pas de contours. Quand je commence à écrire, il y a des images assez précises ou des moments Et c'est comme si... Il y a ces films, le film La Rose Pourpre du Caire de Woody Allen. On peut rentrer dans l'écran et c'est un peu comme ça que ça se passe pour moi. C'est comme si cet univers existait et puis je peux y aller. Mais seulement il y a certaines images qui existent au départ. Mais donc pour planter les choses un peu nettement, on a d'un côté cet univers qui est régi par une éthique du travail poussée à l'extrême avec donc, tout ce dont on vient de parler, hein, un discours du pouvoir donc très oppressant, omniprésent, diffusé par des haut-parleurs et des citoyens qui sont à la fois complètement aliénés et consentants. Donc d'une part, et d'autre part, ce qui peut sembler être tout autre chose, un univers familial, une petite maison près d'une voie de chemin de fer désaffectée. Et puis c'est l'été, il y a un petit garçon, sa sœur, et il y a une fille qui arrive et qui va fasciner, troubler l'enfant, le garçon qui est nommé, qui s'appelle Oscar, et aussi sa sœur. Et cet épisode-là de l'été, dans cette maison, se clôt par un drame qui n'est pas expliqué, vraiment. Donc on sait que les deux filles disparaissent. Il y a des pistes de lecture ou d'interprétation, mais on ne sait pas exactement comment elles disparaissent, ni exactement pourquoi.
Et c'est ce non-savoir qui fait de l'image une force de répétition, hallucinatoire aussi, quelque chose qui revient, quelque chose qui bouscule les êtres dans leur présence. C'est parce qu'on ne sait pas comment cette petite fille, jeune fille est morte, que les êtres sont hantés d'une certaine manière par cette question. Mais puisque vous parlez d'image, Lucie Taïeb, presque d'une sorte d'écran fictif et imaginaire dans lequel par l'écriture vous pouvez rentrer, est-ce que vous sauriez nous dire, par exemple, une ou deux images qui ont présidé à l'écriture de ce livre-là et qui ont, comme pour ouvrir les portes de l'écriture ont été actives?
Oui. C'est l'image de cette fille et de la voie de chemin de fer désaffectée. Donc Oscar qui suit la fille et qui la voit de dos avec ses chaussettes blanches, un peu chiffonnées.
Très précis.
Ah oui, c'est très précis, oui. Et l'allure aussi de cette fille, sa peau un peu sombre, un peu bistre. Donc voilà, c'est dans l'été, donc avec tout ce que l'été aussi apporte, de lumière, de chaleur,
de désir.
De désir, oui, j'avais parlé de la peau, de ça d'une part. Et l'autre image, c'est l'image d'une femme qui s'enfonce dans le sol, sans qu'on sache exactement comment c'est possible, mais voilà, de quelqu'un qui marcherait et le trottoir cède sous ses pas et l'avale.
Parce qu'il est question de personnes qui s'effondrent. Et je pense que c'est vraiment une trame très importante de ce texte-là, Les Échappées, qui peut fonctionner si on essayait de faire un graphique. Il peut fonctionner vraiment sur plein de lignes différentes, ce roman-là. Des choses qui fuient, des choses qui s'enfoncent, des choses qui disparaissent, des choses qui apparaissent. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur les personnes qui s'effondrent dans votre texte, Lucie Taïeb?
Oui, oui. Donc dans cette société... Il faut travailler, et travailler beaucoup. Travailler beaucoup, beaucoup d'heures par jour, et avec la joie au cœur.
Vous dites ça avec vachement de joie en vous.
Oui, oui. Je crois qu'il est clair que c'est pas exactement mon idéal, mais voilà. Et presque tout le monde y parvient. Presque tout le monde se soumet. Sans peut-être même avoir l'impression de se soumettre en y trouvant son compte, parce que si c'est très valorisé, il y a une valorisation de la force de travail glorieuse, quoi, qui fait avancer la nation en produisant. Mais certains sont au bout du rouleau et ne peuvent plus du tout. C'est peut-être même au-delà de l'épuisement. Et donc pour ces gens, on a inventé un rituel qui est le rituel de l'effondrement. Donc sur leur lieu de travail, ils se mettent à terre. Et quand on leur demande s'ils vont bien, donc là ils restent encore, on peut encore répondre oui, se relever et retourner au travail. Ils répondent non. Et donc là, plus ils sont évacués. Et et disparaissent de la circulation.
Ce sont les effondrés volontaires ?
Alors au début, on suppose qu'ils ne sont pas, que c'est vraiment, qu'ils sont à bout de force, parce que c'est quand même assez dangereux de s'effondrer, puisqu'on ne revoit jamais ceux qui ont disparu. Donc voilà, il y a quand même une inquiétude qui peut être liée à l'effondrement. Mais ensuite, le rituel est subverti par un petit groupe de personnes qui s'effondrent effectivement volontairement. Et se couchent un peu théâtralement, s'allongent théâtralement, soit ne répondent pas à la question qui leur est posée, est-ce que tout va bien, donc ne répondent pas, donc ça bloque le rituel, plus personne sait comment agir, soit hurlent un nom tonitruant qui essaie de faire entendre quelque chose, oui.
Ça donne hyper envie de le faire. Vous avez déjà eu des témoignages de personnes qui se sont volontairement effondrées, ont comme coulé de leur chaise dans des entreprises en France ou ailleurs, Lucie Taïeb. Je suis sûre que ça existe.
J'aimerais bien que ça existe. J'ai pas eu de témoignage, mais c'est un appel.
Mais de toute façon, ce texte, il formule de temps en temps des appels.
Oui.
Je lisais en introduction un petit extrait, y compris le texte en incipit qu'a lu Jeanna Léos, fonctionne aussi comme ça, comme des formes de manifestes, comme des formes de messages, on va y venir, mais il y a vraiment cette forme-là qui semble être avoir votre affection.
Oui. En pointillé peut-être, hein. En pointillé parce que ça peut pas être non plus un appel triomphant comme si on avait trouvé une solution. Donc ça peut justement passer effectivement par des messages, par ces petits transistors qui passent sous le manteau. Mais l'idée, c'est bien, enfin l'idée commune à tous ces messages, je crois que c'est bien de donner envie à ceux qui sont soumis et consentants. D'autres choses, enfin leur donner l'envie d'autres choses, ouais. Peut-être pas d'une révolte manifeste immédiate, mais en tout cas peut-être au moins d'un recul et d'un retrait de leur consentement à leur aliénation.
Quel est le rapport de l'œuvre d'art avec la communication? Aucun. Aucun. L'œuvre d'art n'est pas un instrument de communication. L'œuvre d'art n'a rien à faire avec la communication. L'œuvre d'art ne contient strictement pas la moindre information. En revanche, il y a une affinité fondamentale entre l'œuvre d'art et l'acte de résistance. Alors là, oui, il y a quelque chose à faire. Avec l'information et la communication, oui, à titre d'acte de résistance. Quel est ce rapport mystérieux entre une œuvre d'art et un acte de résistance, alors que les hommes qui résistent n'ont ni le temps, ni parfois la culture nécessaire pour avoir le moindre rapport avec l'art? Je ne sais pas. Malraux développe un beau concept philosophique. Malraux dit une chose très simple sur l'art, il dit « C'est la seule chose qui résiste à la mort. »
Il y a la mort, on l'entendait, Jeanna Léos lisait l'incipit de votre texte, Lucie Taïeb, dès la première page. Et il y a tout un tas d'appels, alors vous ne dites pas d'appel à la révolte, mais d'appel à une forme de résistance douce. Ici, on entendait la voix de Gilles Deleuze en 1987 dire qu'il n'y a aucun rapport entre l'œuvre d'art et la communication, mais qu'il y en a entre l'œuvre d'art et la résistance. Quid de ces petits transistors, Lucie Taïeb ? Est-ce que vous pouvez nous dire à quoi ils servent ?
Alors c'est...
En dehors de faire entendre des archives de 1987 de Gilles Deleuze.
Ces petits transistors donc, qui arrivent, qui passent sous le manteau, vraiment, qui sont transmis comme ça dans la rue, on se retrouve... donc là, un personnage qui se fait bousculer, et puis quand il rentre chez lui, il a un petit transistor dans sa poche. Diffuse la voix de celle qui est désignée comme une héroïne placide et qui s'appelle Stern, donc la voix d'une femme qu'on situe d'abord pas exactement dans le temps ni même dans l'espace, on ne sait pas si elle s'adresse en direct aux personnes à qui elle parle ou si ce qu'elle leur dit vient de plus loin dans le temps.
Comme les étoiles quand même.
Oui, comme les étoiles, avec ce décalage, effectivement. Et donc, elle leur dit des choses simples. Elle leur dit, enfin, ce qu'elle essaie de leur dire, ce qu'elle essaie de faire, en leur lisant des poèmes, en leur chantant des chansons, en leur disant aussi, en essayant de les appeler à sortir de la stupeur dans laquelle on est plongé par la peur et par la terreur, c'est de les ramener à eux-mêmes, en fait. Donc, de leur donner le goût ou l'envie d'une reprise de possession de leur propre temps, dont ils ne sont plus maîtres, puisque le temps dont ils disposent est le temps de vie, hein, est entièrement consacré au travail. Voilà ce qu'elle essaie de faire, en leur lisant des poèmes et en leur chantant des chansons.
Il y a quelque chose de particulier dans la manière dont la voix X de Stern intervient dans les petits transistors. C'est, vous dites, elle dit des choses simples, mais elle les dit d'une manière assez détournée. Il y a une sorte de brouillage du message aussi,
oui.
De sens qui est un peu en couche. Est-ce que vous croyez, Lucie Taïeb, à ça, pour reprendre les mots de Gilles Deleuze, qu'il y a une force de résistance dans une forme d'illisibilité ou pas de lisibilité immédiate?
L'absence de lisibilité immédiate, qui n'est pas forcément une illisibilité ni un hermétisme, c'est qu'elle ouvre un espace d'interprétation. Et donc c'est aussi qu'elle ouvre un espace dans cette forme de brouillage ou de messages peut-être pas équivoques et qui indiquent pas une seule direction. Elle ouvre une place où celui qui écoute ou celui qui lit peut entrer pour choisir lui-même un sens ou pour choisir lui-même une direction. Donc elle a le brouillage ou l'ambiguïté ont l'avantage de laisser la possibilité de trouver ou de construire son propre sens.
Pourquoi est-ce que vous avez choisi le son et peut-être la radio ou le transistor plutôt que des messages tagués sur les murs ou d'autres formes d'appels? On a été flattés que ce soit des petits transistors glissés sous le
tour. Moi, je suis heureuse d'être ici aussi pour parler de transistors. C'est une mise en abîme. Parce que, je continue sur la même... C'est parce que j'aime la voix. J'aime l'idée que ce soit une voix qui vous réveille, hein, et qui vous parle. Et puis aussi, oui, il y avait aussi cette idée-là. Comment il y avait d'un côté les haut-parleurs, même si c'est pas très très présent dans le livre, et de l'autre côté le petit transistor qu'on va pouvoir écouter à l'oreille, et la question de la voix qui s'adresse vraiment à chacun presque de manière personnelle, que je relie aussi à la manière dont on peut parler aux gens parfois. Il faut voir comment on nous parle, mais effectivement parfois la manière dont on s'adresse aux gens, moi me m'étonne ou me trouble ou me gêne tout simplement profondément.
Parce que d'un coup, ça devient aussi une question très politique à la fois du point de vue du potentiel de soulèvement, c'est-à-dire que quand même, ou d'effondrement volontaire, c'est quand même en écoutant une voix qui leur parle autrement, qui leur parle d'autre chose, qui leur parle d'une autre manière, que des personnes vont trouver une voie d'échappatoire, pour reprendre le titre de votre texte, à un monde qui, au contraire, les fige, les fixe et les enferme, Lucie Taïeb. Mais du coup, ça veut dire aussi que d'un seul coup... Par là même, vous interrogez la manière dont on leur parle habituellement.
Oui, exactement. Oui, sans avoir précisément à développer la manière dont on leur parle habituellement, je montre que là, il y a une manière de parler avec douceur, avec amour, qui vise à planter la graine de l'émancipation. En fait, c'est ça. C'est l'enjeu. C'est ça. C'est comment est-ce qu'on sort de leur soumission et de leur consentement, des masses là vraiment complètement opprimées, mais l'oppression pourrait être moins grande, la question reste la même. Comment est-ce qu'on fait pour ouvrir une porte, pour donner l'envie de se soulever, pour essayer de chercher justement ou de mener vers cette émancipation? J'ai moins écrit sur la question de la révolte, de la révolution, de la résistance active, que sur une forme de résistance passive, mais aussi sur qu'est-ce qui peut porter l'étincelle, en fait. Qu'est-ce qui peut initier ce mouvement, qu'est-ce qui peut amorcer ce mouvement de révolte?
Alors, je suis obligée de reposer ma question de l'art,
oui.
de tout à l'heure. Peut-être c'est une question difficile, mais on est là, on est aidé par Gilles Deleuze, et puis on avance aussi et on est aidé par votre propre parole. Qu'est-ce qui peut porter cette étincelle-là ou cette possibilité de déplacement? On a l'impression que ça se situe du côté de la poésie, du poème, d'une certaine adresse, Lucie Taïeb, dans votre livre, Les Échappées.
Oui, dans mon livre, ça se situe du côté du poème et de la poésie, parce que le poème, la poésie, ce sont des lieux où la parole est libre, hein, c'est-à-dire où elle peut, même s'il y a de grandes traditions littéraires, et qu'on, voilà, il ne s'agit pas de partir de rien, mais en tout cas une parole qui n'est pas assujettie à un certain nombre de normes, notamment aux normes de communication, et ne serait-ce que cette pratique-là peut être déjà vue comme une forme de résistance. Après, ce dont je me méfie beaucoup, et c'était aussi la raison de ma réserve tout à l'heure ou de mon hésitation, c'est que je crois pas que le poème fasse acte. Donc, je pense qu'il faut peut-être, en ce qui me concerne, hein, je parle évidemment que pour moi, mais j'ai essayé de garder une ambition modeste, et même dans la place que je donne au poème dans le texte, c'est que voilà, là, on a au moins, ici au moins, on a un espace de parole non normé, un espace de parole libre, un espace de parole aussi qui dans l'adresse, essaie de trouver ou d'allumer chez chacun ce qui va pouvoir le sortir de son propre asservissement. Mais ça veut pas dire que le monde est changé ou que le monde est modifié par le poème. C'est ensuite, dans le texte, ceux qui prennent en charge de transformer le monde, c'est des gens qui sont organisés, qui ont une pratique politique, qui ont une stratégie. Et là, il y a une sorte de collaboration heureuse, en fait, qui se fait entre, d'un côté, la parole politique, poétique, et de l'autre côté, l'action politique.
Mais il n'y a aucune romantisation de tout ça.
Non, voilà.
Je pense que les choses qui ont été se rejouent sans cesse d'une certaine manière, mais autrement, par exemple. Et donc, que la réalité utilise à un certain moment des filiations empruntant à, je vais employer, à la virtualité, pour employer un mot que je n'aime pas beaucoup, mais qui est très moderne. Je crois en effet que il y a quelque chose de l'imaginaire qui passe dans le réel et réciproquement. Il y a un mélange moléculaire, il y a une perversion de l'un par l'autre. Constamment dans la vie, la façon simplement dont on se souvient d'une chose qui a eu lieu, c'est déjà quelque chose qui appartient à l'imaginaire, puisqu'elle n'a jamais eu lieu, cette chose-là, telle qu'on s'en souvient. On s'en souvient parce qu'on aime s'en souvenir d'une certaine façon, et d'autres s'en souviendront d'une autre façon. Donc, tout ça crée des incertitudes sur des choses pourtant avérées. Moi, c'est cette alchimie qui me fascine.
Je parle d'un passé qui n'est plus et demeurerait pour ceux qui veulent me saisir hors d'atteinte, car nul ne peut remonter ce temps. J'ai gardé souvenir de ce qui nous précède et de ce lieu vous parle, sauvegardé, intact, et vous appelle à me rejoindre. Lorsque le temps eut fini de s'accélérer, il n'y eut plus de temps. Le présent était si vite et si définitivement détaché de l'instant vécu qu'on ne pouvait plus le nommer passé. À peine vécu, l'instant déjà détaché et perdu, oublié, effacé, périmé, digne de rien, pas même d'un souvenir, nous avons perdu peu à peu et la nostalgie et le désir, et la peine et la jouissance. Nous avons perdu tout ancrage. Nous sommes une idée en tête, une tâche à achever, quelque chose qui nous consomme. Nous sommes quelque chose qui nous consomme et nous nous sentons dévorés. Je regarde ta main et je vois la morsure. Vois dans tes yeux ce qui s'engloutit. Et je ne sais pas comment y mettre un terme. Je te vois dévoré, dévorant. Je te vois consumé sans désir, sans plaisir, sans ardeur. Je ne crois pas encore que tu puisses jouir de quoi que ce soit, ni que tu puisses être. J'ai de la peine pour toi. Je vois ta douleur. ta forme de déplacement. Tu ne coïncides pas exactement. Tu n'es pas. J'ai de la peine pour ce qu'on a fait de toi, de ce que tu as laissé faire. Et ce soir, je n'ai pas d'espoir. Je n'ai pas l'espoir que ma voix, qui s'adresse à toi, te ramène à toi. Je n'ai pas d'espoir, sinon celui d'être surprise. Surprends-moi ce soir et reviens à toi, c'est-à-dire souviens-toi.
Lucie Taïeb, on écoute un autre extrait de votre texte « Les Échappés » lu par Jeanne Aléos. Et juste avant, c'était une archive de Jean-Louis Zinn en 2004 au micro d'Alain Weinstein, parlant finalement de la manière dont l'imaginaire prend en charge les souvenirs et qu'il n'y a point d'accès à un réel qui est passé, sinon par le plaisir de le faire revenir, plaisir ou déplaisir, mais nécessairement transformation. Et juste après, cette voix qu'on entend dans votre roman Les Échappés et qui dit qu'elle nous parle d'un temps où il n'y a plus de temps.
Oui.
Et en fait, c'est quelque chose qui est beaucoup bousculé. Cette idée de temps, si jamais on avait une conception linéaire du temps avant de lire Les Échappés, oui. Bah on est bien embêté parce que c'est vraiment pas la manière dont fonctionne votre texte.
Non.
Alors comment il fonctionne?
Alors il y a plusieurs choses. Alors certes, il n'y a pas vraiment de conception linéaire du temps. Ceci dit, une des contraintes que je m'étais imposée dans ces deux trames narratives, c'était de reprendre chaque trame, puisqu'elle s'entremêle, à un moment qui est postérieur à celui où je l'ai quitté. Donc il n'y a pas.
Donc, ça avance.
Ça avance. Voilà. Ça avance. Ça c'est. On peut
s'appuyer là-dessus.
Voilà, s'appuyer là-dessus. Ensuite, il y a deux choses entre l'extrait qu'on a entendu et la lecture. Il y a le premier aspect, c'est que on peut pas avoir de certitude sur ce qui s'est passé. Ça, c'est précisément ce qui fait fonctionner l'intrigue familiale, personnelle autour de la disparition de ces deux filles. C'est que Oscar va avoir une vérité à défendre de ce qui a eu lieu. Et tous les autres autour leur disent mais non, ça n'a jamais eu lieu, ou ça n'a pas eu lieu comme ça, ou et là la question qui m'intéressait, c'était la question de savoir qui écrit l'histoire, qui, de nouveau une question de discours, qui peut dire comment ça a eu lieu exactement. Donc
en l'occurrence personne, tout le monde peut dire comment ça a eu lieu pour soi.
Alors en l'occurrence, personne, à cette différence près que le petit garçon dit « mais ces deux filles, elles ont vraiment existé » et j'espère que le lecteur le croit ou qu'il en a l'impression, et que tout le monde autour, niant qu'elles ont vraiment existé, nie aussi le crime de leur disparition. Donc lui, quand même, défend leur existence. Et il y a du coup un rapport de pouvoir entre le petit garçon et puis après ses parents et toutes les personnes qu'il va rencontrer et qui vont lui dire « écoute, ton histoire, même si elle est vraie, de toute façon, c'est pas la plus forte. Donc laisse tomber, abandonne-la et joins-toi à notre vision de ce qui a eu lieu. » Ça, c'est une manière, dans cette trame-là, qui est une trame familiale, de poser aussi la question de savoir qui peut raconter cette histoire. Et c'est aussi pour ça que je donne pas le fin mot, que je dis pas ce qui a eu lieu, parce que... On sait que les deux filles ont disparu, mais peut-être qu'il y a des choses qu'on peut même pas penser, qui sont indicibles ou inimaginables. Et là, il y a une espèce de béance dans le texte qui est pour le coup une béance volontaire, parce qu'elle renvoie certes incertitude sur le passé ou le réel. L'autre rapport au temps, c'est celui qui était là dans l'extrait lu, c'est le fait, ça je crois pas faire une découverte, que on a l'impression aujourd'hui que notre temps nous appartient de moins en moins, aussi parce qu'on est pris par des tâches ou par différentes tâches simultanées à accomplir, et que là, il y a une espèce d'émiettement du présent, aussi un émiettement peut-être du désir, parce que si le désir est satisfait immédiatement, alors il peut plus s'inscrire dans la longueur de l'attente qui le fait exister, qui lui donne de l'épaisseur. Et l'idée de cette voix de Stern, c'est de réancrer les personnes à qui elle s'adresse dans un autre rapport au temps, qui veut dire aussi de pas seulement qu'ils se souviennent d'une époque où ça a été différent, mais qu'ils se souviennent aussi de leur propre passé, c'est-à-dire de les faire réexister enfin de ralentir les choses, tout simplement.
Parce que la voix dit ce soir, je n'ai plus d'espoir, je n'ai que pour espoir d'être surprise.
Oui.
Merveille. Surprends-moi, c'est-à-dire souviens-toi.
Oui.
Ça aussi, c'est une certaine gymnastique avec le temps, Lucie Taïeb. C'est-à-dire qu'on pourrait considérer surprends-moi soit éminemment dans le présent, voire soit complètement dans le futur. Et vous vous dites surprends-moi, enfin vous dites, vous écrivez, vous faites dire surprends-moi, souviens-toi.
Oui, parce que se souvenir, ça voudrait dire se ressaisir de soi-même. Ça voudrait dire se souvenir de peut-être de son enfance, de ses premiers moments, et pas être tout entier pris ou happé par la tâche à venir, par le travail à accomplir. Ça voudrait dire sortir de l'émiettement et se reconstituer comme individu. Le personnage, parce que je voulais pas que ce soit une parole béate d'amour et d'optimisme mais aussi une parole un peu dure
et parfois découragée
et parfois aussi désespérée, mais qui continue à s'adresser et aussi qui peut-être replace la responsabilité de l'autre côté du transistor. Et donc le seul espoir, c'est effectivement que chaque personne se ressaisisse de soi-même et sorte de cette soumission.
Et ce n'est pas complètement anodin que la trame de ce monde de travail effréné, de ce temps grappillé et émietté, se mêle à une autre trame qui est donc celle de l'enfance, qui est aussi une trame de disparition, de crime, de malheur, mais qui est celle de l'enfance,
oui.
Qui est celle de l'été, qui est celle de la lumière, qui est celle du soleil, comme si en filigrane, le souviens-toi, le ressaisis-toi était aussi, éventuellement, va chercher le petit Oscar qui croit ferme dans sa version de l'histoire.
Oui, oui, absolument. Alors là, ça c'est un des croisements possibles entre les deux trames. J'ai essayé de rendre une lecture possible où finalement elles se rejoignent. Mais ce qui m'intéressait surtout dans l'écriture, c'est les échos qui peuvent exister entre ces deux trames et entre ces deux univers. Et dans le monde d'Oscar, les corps existent encore, le désir est encore présent. Et oui, il s'agit pas, souviens-toi, il s'agit pas seulement d'une espèce d'introspection, mais aussi de retrouver son corps, ce qui veut dire aussi retrouver son désir, parce que c'est inscrit dans un rapport au monde et au sensible, qui peut faire exister chaque personne autrement que comme outil de travail.
Oscar, il subit une transformation.
Oui.
Vous pouvez nous en dire deux mots de cet Oscar, parce que c'est pas n'importe quel enfant non plus. Enfin, je veux dire, aucun enfant n'est n'importe quel enfant.
Il subit une transformation double, peut-être, mais j'aimerais pas peut-être en dévoiler trop de choses.
Autant que vous voulez.
Autant que je veux, d'accord. La première transformation qu'il subit, c'est que comme on lui fait ravaler son histoire et qu'on lui dit à un moment, écoute, ça, il n'y a pas de place pour ce que tu veux nous dire et de toute façon, ça ne s'est pas passé comme ça, il développe une maladie étrange qui fait qu'il dépérit. Il parle plus vraiment, il peut plus s'alimenter vraiment normalement. Voilà, il y a une...
L'école devient difficile.
L'école devient difficile parce qu'il intervertit. Voilà, il y a une inversion des choses aussi. Donc si on lui demande une addition et que là, le résultat est 34, il va répondre 43. Voilà, son propre nom, il dit qu'il s'appelle plus Oscar, mais
Ascaro,
ou voilà, il déplace les lettres, et puis dans ses fonctions aussi, c'est plus des larmes, c'est plus le sens, mais à circuler. Enfin voilà, ça va assez loin dans l'inversion, dans la transformation, comme si c'était finalement conformé au pied de la lettre à ce qu'on lui avait dit. Ravale ton histoire et donc
mais tout
à l'envers et que tout est à l'envers maintenant, voilà, tout est inversé et malgré tout cette espèce de maladie sans la dévoiler, mais j'avais vraiment voilà ce désir qu'il y ait une ouverture à la fin du roman et qu'on aille vers quelque chose qui soit pas quelque chose de mortifère ou de désespéré. Cette maladie se transforme en convalescence. et en lente métamorphose, comme ce qui se passe précisément dans l'hiver. L'image est simple, c'est-à-dire c'est la mort et en même temps en germe, il y a quelque chose de nouveau, d'inédit et d'inimaginable qui va se produire et qui se produit dans son corps à lui, c'est-à-dire que quand il se réveille, il n'est plus celui qu'il était.
Et qui s'appelle par exemple le mois de mai. Est-ce que vous nous diriez une construction, un petit mot sur la construction en saison de ce texte-là? Il fallait une scansion peut-être pour que tout ce trame et ce rythme, elle vous est venue naturellement, cette idée que se succéderaient les saisons jusqu'au mois de mai?
Alors, ce qui est venu naturellement, enfin, le texte s'est ouvert en été, dans cette chaleur, dans cette moiteur, voilà, cet éveil au désir le long des rails désaffecté. Et à la fin de la saison de l'été, je savais qu'on passait à l'automne avec. Et donc j'ai vraiment là travaillé sur les connotations habituelles du pourrissement, mais aussi du pourrissement, mais qui est pas encore juste un. Une décomposition, mais avec les odeurs de l'automne, voilà. Enfin, il y a quand même un reste de cette sensualité ou de cette présence du corps, mais quelque chose quand même qui se délite. Donc, c'est la période de la maladie. Et l'hiver m'a fascinée, mais ça, je l'avais pas anticipé parce que j'écris sans plan. Donc, ce qui m'a plu dans l'hiver, c'est que c'est à la fois tout est mort et tout est silencieux. Mais du coup, il peut se passer des choses assez inattendues qui vont surgir en mai. Alors c'est une sorte de printemps différé parce que là le temps effectivement, pour revenir sur la question précédente, le temps en hiver, on ne sait pas si c'est un hiver ou 10 hivers, on ne sait pas exactement combien de temps se passe pendant cet hiver, mais en tout cas il se passe assez de temps pour préparer une renaissance et elle a lieu en mai, qui est le dernier mois.
France Culture, par les temps qui courent, Marie Richeux avec Lucie Taïeb.
Le lagon rouge sang, j'ai tellement grincé des dents, je voulais partir et m'échapper dans un lagon abandonné.
N'écrit pas tous les moments de ses héros. Par exemple, ses héros dînent, puis ils se revoient le lendemain. Mais si le livre est réussi, je crois que c'est le cas pour Dostoïevski, disons, ou pour certains livres de Dostoïevski, on a l'impression qu'entre les deux scènes qu'on a vues, il y a eu aussi d'autres qu'on ne connaît pas. C'est-à-dire que les héros sont allés chez eux, ils sont dormis, ils ont rêvé à quelque chose. Si on n'a pas cette impression-là, alors le livre n'existe pas. C'est-à-dire qu'il y a bien des choses que l'auteur ne nous raconte pas, que l'auteur ne connaît pas, mais qui doivent exister. C'est-à-dire que si deux personnages ne se revoient qu'au bout de 20 ans, il faut sentir qu'ils ont eu des expériences, qu'ils ont vieilli, qu'ils sont un peu changés, parce que sinon le livre n'opère pas sur le lecteur, non. Je crois que c'est Coleridge qui parlait de « a willing suspension of disbelief ». C'est-à-dire que dans l'art, il n'y a ni croyance ni incrédulité. Que le lecteur suspend volontairement son scepticisme ou son manque de croyance. C'est-à-dire qu'il faut qu'il collabore avec l'auteur. C'est-à-dire une personne qui voit une tragédie sait très bien que cela se passe sur une scène, que ce sont des acteurs, que ce n'est pas Macbeth qui l'a devant lui. Ça, il le sait. Mais en même temps, il entre dans le jeu. Il tâche de l'oublier, ou plutôt de suspendre, comme dit Coleridge, son incrédulité. L'auteur attend cela de lui.
On entend à l'instant la voix de Borges qui parle du « willing suspension of disbelief », cette idée de suspension comme ça, consentie de l'incrédulité et du rôle de la lectrice ou du lecteur pour entrer dans la fiction. Mm-hmm. Est-ce que vous sauriez nous dire la manière dont vous attendez quelque chose de nous, Lucie Taïeb? Est-ce que vous attendez qu'on suspende quelque chose? Parce que vous le disiez tout à l'heure, c'est un texte qui à un moment donné va trouver une dimension fantastique, on pourrait dire ça comme ça. Pour autant, est-ce que vous attendez qu'on suspende comme ça un espèce de scepticisme, pour reprendre les mots de Borges?
Pas nécessairement. Pas nécessairement une suspension d'un scepticisme, mais ce que j'aime imaginer le lecteur ou la lectrice en train de lâcher quelque chose. Et de peut-être se laisser fasciner par les images dont je parlais ou par d'autres, comme moi j'ai pu l'être parce que je les voyais avant de les écrire. Et que, les pointes d'intensité que j'essaie de suivre dans le texte suffisent en fait à l'emporter et à suivre l'histoire. Peu importe la foi ou le crédit. Enfin, c'est pas vraiment une question de perplexité ou de scepticisme.
De scepticisme.
Voilà. Peu importe, voilà. C'est pas tant une question de suspension du scepticisme que de peut-être, de se laisser emporter. Et sans s'inquiéter de ce qui n'est pas clair. Sans s'inquiéter de ce qui n'est pas maîtrisé dans la lecture parce que tout ne peut pas être maîtrisé. Et ça a été pensé comme ça.
Et justement, pour que ce soit pensé comme ça, ou pour que nous ne soyons pas inquiets de ne pas forcément toujours tout comprendre ou d'être désarçonné par des choses qui ne semblent pas claires, il faut qu'on sente votre foi à vous.
Oui.
Et vous, c'est quelque chose que vous bâtissez au fil de l'écriture, c'est quelque chose que vous avez bâti dans vos propres lectures, l'idée qu'il y a dans le lâcher-prise, dans la lecture, quelque chose de désirable.
Oui, et pas seulement dans mon écriture ou dans mes lectures, évidemment dans mes lectures, mais aussi quand je vais au cinéma ou au musée. L'idée de ne pas comprendre tout de suite, ou même peut-être de ne jamais comprendre quelque chose.
Ou pas tout de suite.
Je pense que c'est pas forcément un obstacle à la réception d'un certain nombre de textes ou d'œuvres, ou je pense à Loborne Tounès, à Faulkner, enfin voilà, pour des moments de lecture, moi, de grands troubles, de grandes confusions. Mais qu'est-ce qui s'est passé exactement? Qu'est-ce que je viens de lire? Qui sont des moments d'interrogation qui se résolvent pas forcément. On n'a pas forcément la solution au bout du compte. Mais l'écriture tient assez pour qu'on ait envie de poursuivre.
Mais c'est ce que j'allais dire, dans le cas des deux grands auteurs que vous évoquez, Loborne Tounès ou William Faulkner, ce qui s'est passé, c'est de la langue. C'est-à-dire que même quand on pige pas forcément ce qui se passe du registre de la narration ou de l'intrigue, ce qu'on comprend intensément en revanche, c'est qu'il s'est passé de la littérature en nous, c'est qu'il y a quelque chose du littéraire qui est passé en nous.
Oui, Oui, c'est ce que j'essaie de faire.
Bah, c'est bien.
Bah, oui, enfin. c'est ce que j'essaie de faire parce que ça, c'est ce qui se passe en moi aussi. Parce que la langue me permet pas seulement de dire des choses, mais écrire, ça me. Voilà, le moment de l'écriture, c'est un moment où je suis traversée, où je suis émue, où je suis comme le moment de la lecture, précisément.
On en revient à Deleuze, ouais. C'est-à-dire ça nous éloigne de la communication. Oui. La langue ne vous permet pas seulement de raconter des choses.
Non. Non, non. Non, parce que même si là, j'avais des trames narratives, je savais qu'à un moment donné, il allait falloir que je raconte ça ou ça, enfin, avec une petite anticipation quand même sur ce que j'allais devoir raconter. Ce que je cherchais, enfin, voilà, où je suis à l'affût, c'est vraiment ces moments d'intensité, mais qui sont aussi des moments d'intensité pour les personnages. Et c'est pour ça que je change de perspective. On suit toujours la même histoire et en avançant temporellement, mais pas toujours du point de vue du même personnage, parce qu'à un moment, ce qui se passe, le personnage qui est ému ou qui est mu par quelque chose, qui est bougé, qui est, je vais essayer d'aller auprès de lui et c'est voilà, j'essaie de me déplacer moi aussi vers le moment qui est pour moi hein, le plus brillant ou le plus aigu, voilà.
On dit pas, peut-être un peu volontairement, on parle pas trop là dans cet entretien des deux jeunes filles, oui. De ce qui les traverse, mais c'est peut-être parce que c'est aussi un des endroits brûlants, mais à la fois brûlant et béance de ce texte-là, oui. Lucie Taïeb. Peut-être aussi parce que c'est vacillant, parce que tout le monde dit qu'elles n'ont pas existé, c'est difficile à attraper, mais parce que c'est difficile à attraper, je sais pas comment me débrouiller de cette fin de phrase, mais oui. Vous voyez ce que je veux dire, oui. C'est comme si c'était le cœur du volcan, ces
oui.
deux filles-là.
Absolument. Il y a quelque chose comme ça, et j'essaie aussi de faire. Donc finalement, donc cette fille qui fascine tout le monde, Oscar va la suivre, être complètement aimantée par elle. Et puis un matin, enfin incidemment, elle croise la petite sœur, et c'est la petite sœur qui va suivre la fille. Et là, elles sont attirées l'une par l'autre et prises d'un désir qui les surprend, qui les dépasse. Et là, il se passe dans la sensualité ou dans l'attirance ou dans le mystère. C'est aussi des jeunes. Elles sont jeunes toutes les deux, des très jeunes filles ou des jeunes filles, même si leur âge n'est pas dit exactement. Là, il y a un point de. J'essaie de faire vivre un point d'incandescence des corps qui représente un peu quelque chose d'indépassable, en tout cas dans la manière dont on peut être vivant et dont on peut être présent et dont on peut vivre quelque chose qui nous ancre et qui nous construise aussi. Et c'est précisément ce qui va être détruit, ou pour ça qu'elles vont être détruites, plus que par le fait que ce sont deux filles d'ailleurs.
Ich gehe mal davon aus, dass die Literatur oralen Ursprungs ist.
Oui, moi je suis convaincue que l'origine de la littérature, c'est l'oralité justement. C'est-à-dire avant de commencer à écrire, on a commencé à raconter des choses, à répéter des choses. Les histoires ont changé au fur et à mesure. Puis un jour, il y avait quelqu'un qui s'appelait Homer. Et puis quelqu'un a probablement écrit ce qu'il a raconté. Nous ne savons pas très exactement comment tout cela s'est passé. Quand je mets les choses sur papier, il y a aussi le souffle qui compte. Je prononce les phrases à haute voix et je les triture, je les répète, je les retourne dans ma bouche avant de les coucher finalement sur le papier afin que ces phrases, ces mots aient aussi le poids que je veux leur donner écrit sur le papier.
On est en 2005 et c'est Gunther Grass qui est au micro d'Arnaud Laporte sur France Culture dans l'émission Tout arrive. Peut-être pour terminer par ça, Lucie Taïeb, vous dites quand j'écris, il y a quelque chose que je veux retranscrire qui est la manière dont je suis traversée. Et lui, il dit, moi, quand j'écris, bon, d'une part, il a sa petite tambouille à lui qui est de dire les choses, de les dire à l'oral, etc. Mmh. Mais il est aussi traversé par la voix parlée.
Oui.
Qu'est-ce qu'il en est de vous, qui par ailleurs, à Tours et dans la ville de Tours et ailleurs, l'édite à ces textes-là ou d'autres textes. Enfin, vous êtes aussi actif de ce côté-là.
Oui, aussi comme poète et donc étant appelée de ce fait à lire aussi mes textes. Et en fait, on a effectivement parlé des images jusqu'à présent et de ces images précises qui peuvent me frapper, mais dans le moment de l'écriture, ce que j'attends,
c'est d'entendre quelque chose. C'est-à-dire, je ne vais pas me mettre à écrire si je n'entends pas quelque chose. Et c'est aussi pour ça que le rapport à la narration est un peu en clignotant. C'est-à-dire que parfois, je sais qu'il faut que je raconte quelque chose et donc je le raconte. Mais ce qui m'intéresse surtout, c'est le moment où je vais écrire, c'est le moment où la phrase a pris une telle tournure, aussi avec un élément d'étrangeté dans mon oreille, que ça va pouvoir lancer l'écriture de ce moment-là du texte.
Ça veut dire aussi concrètement, dans votre journée, si vous n'entendez pas, vous n'écrivez pas.
Oui.
Dans un mois, si vous n'entendez rien, vous n'écrivez rien.
Oui. Oui, concrètement, c'est exactement ça. ceci dit, quand une langue s'est mise en place, et qu'on est aussi dans l'écriture d'un
récit.
Elle
fait signe de temps en temps.
Voilà. Je sais que j'ai laissé mon personnage à tel endroit auprès de sa cafetière et qu'il va falloir que j'aille le récupérer à un moment donné pour raconter ce qui se passe après. Ça joue, je pense. Ça fait que, oui, là, je peux l'entendre avec par intermittence, mais pas trop, forcément trop éloigné.
Et nous aussi, par la même occasion, une fois que le livre est publié. Merci beaucoup, Lucie Taïeb, Les Échappées.
Merci.
C'est publié aux éditions de L'Ogre et donc il est sur la liste du prix Vépler remis le 11 novembre prochain.
C'est plus un état d'être. C'est pas quelque chose. C'est vraiment un état d'être, plus qu'un état de pensée, de. C'est regarder, je ne sais pas quoi, quoi, je ne sais pas pourquoi. Je me sens si tôt. Je ne sais pas pourquoi.
À la prise de son ce soir, c'était Pierrick Monsigny. À la réalisation, Lise-Marie Barré. Par les temps qui courent, c'est Jeanne Aléos, Lucie Riandet, Romain Debecq de Lièvre, Marianne Chassor. C'est aussi une page sur franceculture.fr et un podcast partout où vous voulez. Très belle soirée à vous sur France Culture.
Séparée de vous.
Je n'arrive pas à dire mon nom.